Ah bah la patron m'a convaincu.
Ben, je vous en prie, asseyez-vous.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Quelle est votre principale motivation ?
Chasser en recrutement. Action de contacter un candidat pour lui proposer une opportunité professionnelle. Pourtant, on voit trop souvent des retours comme
« Oh, encore un recruteur ! Il a vraiment rien compris à ce que je fais, lui !»
Salut, je suis Stan, recruteur chez Manify, et vous écoutez Écrire pour recruter, le podcast sur l'approche candidat de l'agence de recrutement et Manify. Une vingtaine de minutes, un expert et un conseil concret pour améliorer tes messages d'approche. Et aujourd'hui, très heureux de discuter avec Solène Métayer, spécialiste en expérience employée, mais aussi animatrice du podcast Les Neurodivertissantes. Solène et moi, on partage une passion commune, c'est la rédaction RH. Et on va parler d'un aspect en particulier, c'est la rédaction inclusive. Quand et comment la mettre en place, mais surtout, pourquoi ? Pourquoi utiliser l'écriture inclusive et les bénéfices qu'une entreprise peut en retirer ?
Salut Solène, comment tu vas ?
Allô, ça va bien toi ?
Et ça va très bien, merci beaucoup. Très content de discuter avec toi aujourd'hui. Et on va discuter un petit peu d'écriture inclusive. Très content parce que honnêtement, c'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement, mais je suis très curieux d'en apprendre davantage. Et je pense qu'on va retourner un petit peu aux bases. Concrètement, c'est quoi l'écriture inclusive?
L'écriture inclusive, en fait, c'est de s'éloigner du fait que le masculin est le genre neutre par excellence. On se dit que, en fait, en incluant le genre neutre comme étant le masculin, on écartait tout un pan de la société qui sont évidemment les femmes, les personnes non-binaires. Et en fait, ça vient un peu influencer la façon dont on considère le monde autour de nous. Tu sais, les mots ont du pouvoir. Donc, de nommer que, par exemple, je sais pas moi, chef et qui au masculin, eh bien, c'est un peu de dire que c'est automatiquement un homme qui va le faire ou que c'est lui qui a la prérogative un peu de ce titre-là. Donc, c'est de s'éloigner de cette pensée-là et ça peut prendre plusieurs formes finalement. Ça peut être soit du féminin neutre qui est un peu le problème inverse, mais qui au moins a le mérite de brasser la cage et de sortir des traditions. Et puis ensuite, ça peut être l'écriture inclusive en tant que telle, donc avec la forme tronquée, les doublons, plein de choses dont on va discuter aujourd'hui.
Ok, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est les mots qu'on utilise au quotidien qui définissent notre monde. Donc, oui. C'est vrai que de rajouter cette écriture inclusive va un petit peu redéfinir un peu notre perception. Et particulièrement, comment l'appliquer dans le domaine des RH et du recrutement? Parce que c'est dans ce domaine-là qu'on va plus en discuter, mm-hmm. justement. Comment l'appliquer concrètement?
Alors, il y a plusieurs stratégies. La première, en fait, c'est une mise en garde, c'est que c'est bien beau l'écriture inclusive, mais si on n'a pas de culture inclusive derrière, ça sert à rien de la mettre en place. Pourquoi? Parce que on va envoyer le message qu'on est inclusif, on utilise donc cette écriture inclusive, c'est un signe, c'est un symbole qu'on met en place, et puis s'il n'y a pas la culture derrière, si par exemple notre équipe de direction est à 67% masculin, ou même pire que ça encore, ben en fait, ça va envoyer le message qu'on n'est pas cohérent et que notre marque, en fait, que nos valeurs, celles qu'on met de l'avant, sont pas vraiment vécues au quotidien, sont pas véhiculées par la direction. Et donc, il y aura un clash au niveau de la marque employeur, ce qui peut être assez catastrophique. Donc, c'est bien beau l'écriture inclusive, mais on peut pas l'utiliser tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une culture derrière et des efforts mis en œuvre pour favoriser l'égalité des chances au sein de l'organisation. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Après, pour l'écriture inclusive en tant que telle, on l'utilise un peu partout, en fait. Ça va être dans les communications internes, dans les communications externes, dans les affichages, bien sûr, dans tous les écrits qu'on va produire comme organisation. Ça peut être pertinent de le mettre. Il y a des bémols, notamment parce que le SEO, le Search Engine Optimization, dont on parle tant pour aller se placer sur Google et compagnie, en fait, ils n'aiment pas l'écriture inclusive. Donc, ils n'aiment pas surtout la forme tronquée. Donc, c'est ce qu'on va voir plus tard un peu, mais c'est surtout cette forme-là qu'ils n'aiment pas. Donc, on va utiliser dans ce cas-là soit le masculin neutre. Malheureusement, on va rester là puis on va mettre une note comme quoi on est sensible au fait que c'est un masculin neutre et blablabla. On a tous vu cet avis-là dans toutes les publications de ce monde.
Le plus souvent, ouais.
Oui, c'est ça. On va peut-être utiliser le féminin neutre. Ça a quand même l'avantage de montrer qu'on a une conscience vers ça, qu'on a cette sensibilité-là sans pour autant aller vers l'écriture inclusive. On va utiliser le langage épicène, donc celui qui est neutre. Par exemple, un individu ou une personne, ça ne dit pas quel est le genre de la personne dont je parle. Donc, c'est un moyen d'utiliser ça. On va utiliser des termes qui sont des adjectifs qui sont épicènes également, comme adorable, ne dit pas quel est le genre de la personne dont je parle. Donc, on va un peu jouer avec les mots qu'on va utiliser. Et sinon, il y a le doublet qu'on peut utiliser, donc de dire au long, je sais pas moi, le recruteur et la recruteuse, et donc de le faire vraiment au long. Donc, c'est les doublets parce qu'on va dire les deux. Cette forme-là, par contre, a l'inconvénient de masquer tout ce qui est les personnes non-binaires qui ne s'identifient ni au masculin ni au féminin. Donc, il y a plusieurs endroits où on va s'en servir quand même.
OK, donc de ce que je vois, il y a plein d'outils. Honnêtement, vraiment, en tant que non connaisseur de ce domaine-là, est-ce que tu peux définir épicène? Par exemple, c'est un mot que je ne connais pas exactement.
Oui, ben épicène, j'ai pas la définition en tête actuellement, mais c'est un mot qui va être à genre neutre. Donc, il ne va pas avoir en soi le masculin ou le féminin comme étant le genre par défaut. Ou bien c'est un genre qui va être défini, mais qui ne... Comme par exemple, des gens. Les gens, on l'accorde au masculin pluriel, mais ça ne dit pas si c'est un groupe de gens qui sont des femmes, des hommes, des personnes non-binaires. Ce n'est pas associé, ce n'est pas genré comme terme en tant que tel. On va forcément le genrer pour des raisons de français, parce que le français est une langue qui genre énormément, une chaise a un genre. Oui, donc c'est un peu plus difficile qu'en anglais, par exemple. Mais l'écriture épicène va évacuer toutes les notions de genre des individus dont on va parler. Donc, c'est un langage qui est plus inclusif, forcément. C'est probablement le plus inclusif de toutes les formes dont on parle parce que il englobe l'ensemble des genres qu'on peut avoir dans la condition humaine, donc non-binaire. Non-binaire en tant que tel englobe plein de genres, mais donc non-binaire qui ne sont ni hommes ni femmes, les femmes et les hommes, donc ça va englober ces trois formes-là, ces trois grandes catégories-là d'emblée, donc c'est intéressant.
Ah ok, ouais, effectivement c'est super utile, mais c'est ça, si on va vraiment dans le concret, moi je suis une compagnie qui veut mettre en place justement l'écriture inclusive. En termes de processus, c'est-à-dire que comme tu me disais, la première des choses c'est déjà d'aller voir à l'interne, de vérifier un petit peu. Justement, de vérifier quoi à l'interne?
C'est de s'assurer qu'on a des principes d'équité, de diversité et d'inclusion par rapport au genre, puis ou à l'expression de genre aussi, ça peut ne pas être la même chose. Donc, ça va être de s'assurer que les quotas sont à peu près respectés, donc que la proportion de gens est similaire à celle dans la société. Donc, que ce soit pas exclusivement masculin dans la direction, c'est souvent là qu'est le nœud du problème, là, que dans l'équipe de direction, ce soit principalement masculin, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, que les promotions se font de façon équitable, que les femmes ont le droit de parole, par exemple, qu'on ne fait pas de discrimination envers les personnes non-binaires ou les personnes trans, par exemple. Donc, qu'il n'y ait pas de préjugés ou encore pire, de discrimination à l'égard de ces individus-là. Donc, de faire un état de conscience, un espèce de diagnostic organisationnel de où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Forcément, ça se peut qu'on ait encore du chemin à faire. L'inclusion est un chemin un peu infini où on peut toujours s'améliorer, mais c'est de mettre en place des stratégies pour améliorer notre état de situation et de faire des efforts, donc qu'il y ait une volonté qui tend vers ça au minimum, qu'on ça se traduise par des actions concrètes. Une fois que ça c'est fait, oui, c'est intéressant d'utiliser l'écriture inclusive. C'est pas forcément l'étape suivante, il y en a d'autres. Ça peut être, je sais pas moi, de mentionner dans nos affichages quelles sont les mesures adaptatives qu'on a mises en place, quels sont nos engagements, quels sont donc de nommer le fait qu'on a cet engagement-là et ce souci-là, mais c'est pas c'est pas forcément l'écriture inclusive. Parce que l'écriture inclusive, c'est quand même, c'est lourd. En tout cas, la forme tronquée, donc de mettre des points ou des points médians ou des tirets ou enfin toutes ces formes-là, c'est quand même lourd à la lecture. Il y a plusieurs personnes qui sont contre ça en raison de ça. Donc, ça peut être un engagement un peu plus fort. Comme je disais, ça a un impact sur le SEO, donc ça peut ne pas être pertinent. On parlait d'embauche. Ça peut aussi nuire à tout ce qui est affichage parce que les personnes sur les sites d'emploi vont chercher les postes généralement avec le titre masculin. Donc, de mettre un titre, enfin, du moins la forme tronquée, par exemple, ça peut nuire parce que nos résultats ne sortiront pas. Si on utilise des titres épicènes qu'on a sortis un peu de notre page arrière, ben c'est un peu la même chose. Ils vont être moins... c'est comme quand on utilise un titre d'emploi qui est trop fancy, qui est trop original. On va moins sortir dans les résultats de recherche. Donc, il y a toutes ces considérations-là, en fait, à en prendre en compte. Mais c'est quand même pertinent de le faire. C'est de voir quels avantages j'en retire versus quels inconvénients sont entraînés.
Ouais, c'est ce que, en tout cas, quand tu parles, c'est ce que je comprends, c'est un peu la recherche de l'équilibre. Donc, oui. si on reprend un peu cette entreprise qui, OK, elle a fait son diagnostic, à l'interne, on va dire qu'elle est en action, en tout cas, pour être le plus en plus inclusive, et veut mettre en place spécifiquement, là, on va se concentrer sur affichage de postes et peut-être même messages d'approche. Je ne sais pas si dans des messages d'approche candidat, quand on fait de la chasse, ça peut être pertinent aussi. Comment la personne, je ne sais pas, peut se former ou finalement, ou quelle information elle a besoin, en fait, pour mettre ça en place?
Quelle information elle a besoin? Ben, c'est sûr que sur LinkedIn, par exemple, tu parlais de messages d'approche, souvent le genre va être indiqué, les pronoms vont être indiqués. Il y a cette fonction-là qui est disponible sur LinkedIn. C'est pas tout le monde qui l'utilise, mais c'est certaines personnes le font, dont moi. Alors que je suis pas du tout trans ou quoi que ce soit, je suis pas non-binaire, mais je trouve que c'est pertinent de le mettre pour ouvrir la discussion et puis que ce soit clair aussi. Les gens qui m'approchent savent que je suis de genre féminin et que j'utilise des pronoms féminins. Donc, c'est plus, je trouve ça plus intéressant, en fait, pour la conversation. Ça met à bas certaines ambiguïtés qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a cette option-là sur LinkedIn d'aller vérifier quel est le genre de la personne. Si on est dans l'inconnu, bien là, on peut utiliser le genre neutre. Il y a le pronom « yel » qui a été mis au dictionnaire récemment, « iel », et sa forme au pluriel également, qui sont donc des termes tout à fait français qu'on peut utiliser quand on ne connaît pas le genre de l'individu à qui on s'adresse. Donc, il y a cette possibilité-là quand on a un message d'approche. Donc, ouais, dans les messages d'approche, je dirais plus vers l'écriture inclusive parce que justement, il n'y a pas de SEO qui s'en mêle. Ça démontre qu'on est ouvert d'esprit. C'est un témoignage de ce qu'est notre culture aussi à l'interne. On ne présume pas quel est le genre d'un individu. Donc, c'est quand même intéressant. Après, donc ouais, ce serait l'étape à faire. Par contre, de juste mettre l'écriture inclusive dans nos affichages et dans nos messages d'accroche, ça marchera pas parce qu'après ça, si tu arrives à l'interne et que c'est exclusivement le masculin neutre, tu viens de vendre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et là, c'est un choc qui n'est pas agréable pour la nouvelle recrue qui peut démontrer que ah ben c'est ça, ils m'ont promis quelque chose puis finalement c'est pas le cas. Donc ça, comme je disais tantôt, ça vient jouer sur ta marque employeur et c'est quelque chose qui est à proscrire bien sûr. Donc, il faut faire attention. La notion d'équilibre est dans les deux sens.
OK, je comprends un peu le mot d'ordre, ça reste cohérence. C'est-à-dire que si tu commences à mettre en place cette écriture inclusive à travers plus donc tes affichages, il faut en même temps que tu aies une stratégie pour qu'à l'interne, j'imagine, les différents documents qui peuvent circuler, eux aussi, soient sous cette écriture inclusive.
Oui, puis s'il faut choisir entre les deux, j'irais d'abord à l'interne d'avoir les mesures et l'écriture inclusive. Parce que l'interne, ben, c'est de là que part ta marque employeur. C'est ça qui va ensuite se parler à l'extérieur. Donc, vraiment de commencer, mais comme dans n'importe quelle pratique de marque employeur, on commence par ce qui se passe à l'interne pour ensuite le divulguer à l'externe. Donc, c'est vraiment le plus important. Puis ensuite, on pense à l'externe.
OK. Et je suis curieux aussi, quels sont un peu les blocages que tu rencontres des personnes qui ont peur peut-être aussi de se tromper parce que tu sais, ça peut être des sujets un peu sensibles aussi.
Oui.
Et du côté de l'entreprise, elle peut avoir peur de se tromper à travers son écriture inclusive et finalement bah, d'exclure du monde. C'est quoi un peu les différentes peurs que tu rencontres justement?
La première, c'est ben, pourquoi? À quoi ça sert? On sait tous que le masculin est un genre neutre. Pourquoi aller au-delà? Donc, il y a cette incompréhension plus qu'une peur, mais c'est vraiment que on exclut des gens, puis ça c'est vraiment c'est une espèce de biais systémique un peu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va, ça va jouer sur nos perceptions, puis ce dont on parlait tantôt là, c'est important de changer les mots qu'on utilise. Donc il y a ça. La peur aussi, ça peut être que c'est lourd à lire quand c'est tronqué. Même les doublons, tu sais, c'est les doublets plutôt, c'est long, tu sais, ça alourdit le texte, ça ajoute des mots, ça ajoute des caractères à notre texte, donc ça peut être plus complexe, c'est plus difficile à la lecture aussi, donc ça peut nuire dans la mesure où c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, hein, faut se, moi ça me dérange plus de lire un texte écrit en tronqué, mais ça peut être, c'est quelque chose qu'il faut se familiariser, donc ça peut être un élément où est-ce qu'on va être réfractaire à cause de ça. Sinon, une autre crainte, ça peut être, qui est légitime celle-là, c'est le SEO, qui est super. Ben, tu sais, j'en parle beaucoup parce qu'on met nos affichages sur le site web, nos communications vont sur le site web et on veut être référencé, c'est tout à fait légitime. Donc, il y a ce questionnement-là qui est à faire aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire pour qu'on sorte quand même bien sur les sites de recherche? Donc, il y a cette crainte-là qui est... Je sais qu'ils sont en train de chercher une solution, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, peut-être utiliser les doublets sur les sites web pour que ce soit plus facile au niveau des recherches par mots-clés. Il y a tous les titres d'emploi aussi, faut voir. Ça peut être qu'on... Tu sais, souvent, on va avoir un titre à l'interne, puis ensuite, un titre qu'on va mettre dans nos affichages qui est plus standard. Et ça peut être une stratégie de dire à l'interne, le titre qui est Ipsen, par exemple, ça va être ça. Mais pour les bienfaits de l'affichage, j'ai utilisé le masculin neutre. Donc, ça peut être ça. Sinon, les autres craintes, ça peut être que c'est lourd à la lecture, que ça peut... c'est quand même clivant aussi comme sujet. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. On n'a qu'à voir le tollé que ça a fait quand Yel a été ajouté au dictionnaire. C'est assez effroyable. Donc, c'est sûr que c'est une profession de foi. Et donc, il faut l'assumer comme organisation. Il faut être sûr de soi. C'est pour ça que c'est peut-être pas la première chose à mettre en place. Il faut d'abord avoir une culture qui est assez solide pour être stable et savoir où c'est là qu'on s'en va et on assume. Mais en même temps, on va attirer des gens pour qui c'est important. C'est une manière de reconnaître les individus aussi. Hein. C'est une manière de respect, de dire « je te vois, tu existes et je valide ton existence ». C'est quand même très, très, très fort comme message. Donc oui, il y a des gens qui vont être plus... frileux à cette idée-là, mais de l'autre côté, on va chercher des bassins de candidats qui sont parfois plus marginalisés, qui sont peut-être pas... ça peut être intéressant, ça, au niveau du recrutement, parce qu'il y a plein de groupes marginalisés qui n'osent pas aller en entreprise parce qu'on parle d'être discriminés. Puis là, ben, on dit haut et fort en utilisant l'écriture inclusive que, ben non, t'es la bienvenue chez nous et c'est pertinent.
Et c'est justement là-dessus que je voulais rebondir, comme on voit que, bien sûr, là encore, c'est toujours une question d'équilibre. Ça dépend toujours de l'entreprise, de ses valeurs, du diagnostic un peu à l'interne qu'elle a fait. Mais concrètement, c'est quoi les bénéfices que tu retires de l'écriture inclusive? Et surtout, je pense que tu as déjà eu des retours de candidats pour qui, justement, ils ont postulé pour un affichage de poste ou qui ont eu un message d'approche et qui, avec cette écriture inclusive, les a particulièrement touchés, en fait.
J'ai des amis que c'est en fait qui ont subi de la discrimination, par exemple qui ont été mégenrés dans les entrevues, et ça forcément c'est très blessant, c'est des micro, même je pense que ça serait le cas de dire que c'est une macro-agression d'être mégenré, donc de faire attention à ça. C'est une manière de dire qu'on est reconnu, donc on est respecté. Et c'est tellement important d'être respecté comme employé. Je dois me sentir en sécurité psychologique hein, dans mon environnement de travail si je veux donner le maximum de ce que je peux et m'épanouir et bref, tout c'est être productif au final, productif. Donc, c'est important de se sentir respecté. C'est un moyen de le faire, de reconnaître qu'on est à l'écoute de la personne devant soi. Les autres avantages, ben c'est sûr qu'on se différencie. Pour l'instant, on se différencie de la concurrence quand on utilise cette forme d'écriture-là. Ça commence à faire jour, mais c'est quand même assez marginal. Donc, on se distingue de notre C'est ça, de nos concurrents. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. On montre qu'on est ouvert d'esprit et qu'on est... C'est un moyen aussi de démontrer qu'on a une culture qui est inclusive, qu'on est sensible à la différence, que ça envoie un message qui est fort. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là pour les valeurs puis pour l'image de marque. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages.
Non, je vois ça, c'est très intéressant, surtout dans le marché qu'on est aujourd'hui, en pénurie de main d'œuvre particulièrement. Mmh. Donc, au Québec, le positionnement est extrêmement important. Et oui. Je retiens ce que tu me disais tout à l'heure, que ça te permet d'aller chercher comme des bassins de candidats qui, eux, n'ont pas forcément l'habitude d'être soit représentés, soit d'être aussi tout simplement plus ou moins chassés, en fait, tout simplement pour les intégrer à l'équipe. Donc, oui. ça peut être vraiment très intéressant pour l'entreprise dans ce domaine-là, quoi.
Oui, pour avoir de la fidélisation qui est plus forte, puis sachant qu'on est en pleine grande démission, c'est intéressant le mot fidélisation, on aime ça. Fait que, oui, c'est quelque chose, c'est une moyen d'aller chercher de s'attirer des gens et d'être honnête avec eux, puis d'avoir une relation plus forte avec nos candidats.
C'est super. Et finalement, ma dernière question, si justement on cherche à aller dans cette direction, dans l'écriture inclusive, est-ce qu'on peut faire appel à ton aide?
Bien sûr. Justement, j'ai un guide qui va sortir bientôt à l'usage des ressources humaines. Donc, ça va, c'est dans le four, ça s'en vient. Donc, il y aura ça. Puis, je vais donner des formations sur l'écriture inclusive pour les ressources humaines bientôt.
Donc, parfait. Bien sûr. Et si on veut te contacter, on te contacte où on peut te trouver?
Sur LinkedIn.
Aussi simple que ça.
Ben oui, aussi simple que ça. On m'écrit sur LinkedIn, puis je suis disponible. Donc, ça me fait plaisir de répondre aux questions.
Merci beaucoup pour ton temps, Solène.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le podcast Écrire pour recruter. Si vous voulez suivre le contenu de Solène et approfondir le sujet de l'écriture inclusive, n'hésitez pas à la contacter via LinkedIn, Solène Métayer. Si vous voulez en apprendre davantage sur le copywriting en recrutement et améliorer vos approches candidats, vous pouvez vous connecter via mon LinkedIn, Stan Folly. Si vous ne voulez surtout pas rater le prochain épisode, et je l'espère, allez suivre la page entreprise de Emanify. Merci encore pour votre écoute et prenez soin de vous.